Suite aux attaques iraniennes contre les installations pétrolières et énergétiques des pays du Golfe, les prix de l'or noir ont grimpé à des niveaux jamais atteints depuis plusieurs décennies. Les menaces de la République islamique autour du détroit d'Ormuz, le poumon stratégique du commerce mondial, font craindre le pire pour les économies européennes et même mondiales. On en parle ce matin avec Gérard Vespierre, analyste et géopolitique. Géopolitologue et par ailleurs créateur du site Le Monde Décrypté. Il est au micro de Jonathan Serrero.
Gérard Vespierre, bonsoir.
Bonsoir à vous.
L'une des questions que tout le monde se pose ce soir, c'est de savoir si les pressions iraniennes sur le détroit d'Ormuz pourraient conduire Donald Trump à mettre fin au conflit. Je vous pose la question, Gérard, car hier, le président des États-Unis a déclaré que la guerre était bientôt terminée et le cours de l'or noir a chuté.
Effectivement, ce discours est, comme toute intervention, je dirais, d'un président, est davantage, et si ce n'est exclusivement, tourné vers ses électeurs et ses concitoyens, et non pas vers une situation globale mondiale. Et c'est effectivement la longueur d'onde émise par Donald Trump qu'il s'adresse à ses électeurs et à ses concitoyens pour les rassurer. Donc, en ce qui concerne le très court terme, normalement, effectivement, ce opération de communication doit porter ses fruits. Et on a vu que actuellement, au moment où nous échangeons, le cours du baril donc de Brent est redescendu sous les 90 dollars le baril. Donc, effectivement, en termes de prix à très court terme, on peut s'attendre à des oscillations au fur et à mesure que des bonnes ou des mauvaises nouvelles vont intervenir. Maintenant, il y a à prendre en considération aussi la déclaration à laquelle vous venez de vous référer sur de la part plutôt des gardiens de la Révolution qui disent qu'il n'y a plus aucune goutte de pétrole pour le camp ennemi. Donc, cette précision-là veut dire qu'effectivement, États-Unis, Europe de l'Ouest, etc., nous sommes dans le même panier, mais s'il y a un camp ennemi, il y a un camp ami. Et l'idée qui avait circulé que finalement il y aurait une autorégulation vis-à-vis d'Ormuz parce que c'était potentiellement privé la Chine de 60% de ses besoins de pétrole, eh bien peut-être il y aura là un ajustement iranien en fonction donc de ses alliances et de laisser passer c'est en tout cas ce qu'il laisse entendre, le pétrole et les tankers vers la Chine. Donc ça, c'est un dossier vraiment important à suivre.
L'autre question que l'on se pose, c'est de savoir quel est l'impact des réductions de barils pétrole par les monarchies du Golfe, qui impactent aussi les chancelleries européennes. Et au regard des menaces iraniennes, est-ce que cela pourrait pousser ces chancelleries européennes à s'impliquer davantage dans cette guerre?
Alors la réduction de pétrole n'est pas une décision politique. Elle est une décision technique qui est liée à l'absence de débouchés. À partir du moment où les tankers ne partent plus, donc les cuves se remplissent et les cuves à terre, dans les stockages terrestres étant pleines, eh bien, il faut diminuer la production. Vous voyez, c'est un jeu de domino inverse qui se passe. On part de l'expédition, de la production et le stockage en conséquence, et donc la production. Donc, c'est ce phénomène-là qui est mis en œuvre, et donc c'est pour accompagner le blocage. Ils ne peuvent pas continuer à produire des produits raffinés qui ne peuvent plus être exportés.
Gérard Vespierre, vous voyez Donald Trump mettre de côté la question du pétrole pour parvenir à ses fins et faire tomber le régime iranien et voir les Iraniens sortir dans la rue ?
Alors là, on est au cœur du débat, n'est-ce pas ? Mais il y a sur le marché américain, les États-Unis sont dans une situation tout à fait, je dirais, particulière. Ils sont pratiquement, je dis bien pratiquement, indépendants en termes de production pétrolière. Ils sont, malgré toutes les bêtises que l'on entend à ce sujet, ils continuent d'être importateurs, pas énormément, mais environ de, j'arrondis, 2 millions de barils par jour, ils en consomment 21. Donc, il y a encore 10% d'approvisionnement extérieur dans la balance exportation-importation. Donc on entend dire que les États-Unis sont autonomes et exportent et inondent le marché de pétrole. C'est absolument faux. Il s'agit de consulter toutes les statistiques hebdomadaire de l'agence d'information sur l'énergie pour avoir toutes ces informations. Et là, donc les États-Unis ont cette particularité d'être pratiquement autonomes, d'avoir besoin que de 2 millions de barils par jour. Donc ils pourraient avoir un impact économique moins important que le reste du monde. Mais il n'en reste pas moins qu'ils sont les pilotes. Effectivement, dans les 300 avions qui bombardent actuellement le territoire iranien, et leur décision est à prendre. Vont-ils continuer la guerre pour ramener éventuellement effectivement le cours du pétrole et débloquer la situation dans le détroit d'Ormuz en arrêtant les combats? C'est une hypothèse, mais ce n'est pas la seule. Ils peuvent continuer étant eux-mêmes un peu à l'abri.
Alors, dans le cas d'une intensification des attaques iraniennes contre les monarchies du Golfe et ses ressources énergétiques, est-ce qu'on pourrait voir au contraire les États-Unis se joindre aux frappes israéliennes contre les centrales pétrolières de Téhéran et d'ailleurs dans le pays, sur le territoire de la République islamique? Car encore aujourd'hui, Pete Hegseth, le secrétaire d'État américain à la Défense, a indiqué qu'Israël avait agi seul, entre guillemets, concernant les frappes contre les raffineries iraniennes observées en fin de semaine dernière.
Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de frappe sur les raffineries, n'est-ce pas? Les frappes qui ont eu lieu autour de Téhéran, il n'y a pas de raffinerie à Téhéran. Il y a des dépôts d'essence, des dépôts de kérosène pour l'aéroport. Donc, ce sont des produits finis et non pas des installations qui produisent de l'essence ou du kérosène. Et il faut bien comprendre qu'actuellement, l'Iran ne mène pas une guerre de destruction des installations pétrolières régionales. Il y a des centaines et des centaines d'installations du champ de pétrolier, du champ pétrolifère, à la raffinerie, aux oléoducs, aux zones de stockage, aux installations portuaires. Voyez-vous, il y a peut-être un millier au moins d'installations au Moyen-Orient liées directement au pétrole. Et il n'y a que quelques dizaines qui sont touchées. Pourquoi? Parce que la stratégie iranienne n'est pas une stratégie de destruction, elle est une stratégie de nuisance. Il s'agit à la marge, de détruire 1, 2, 3, 4, 5% des installations pour que tout d'un coup, les prix s'envolent. Cela suffit totalement à l'Iran de mettre le désordre dans l'économie mondiale. Voilà le levier qu'ils sont en train de mettre au point, ou qu'ils ont mis au point et qu'ils appliquent. Donc il ne s'agit pas de détruire, et en conséquence, on n'a pas besoin de détruire non plus leurs installations, parce que là, on est dans une histoire qui est disproportionnée par rapport au développement que les Iraniens eux-mêmes ont mis en place.
Est-ce vrai que la Russie profite de cette situation? On le sait, la Russie, c'est un allié de l'Iran, et la République islamique réclame aussi une aide un peu plus active de la part de Moscou.
Alors, il se passe des choses assez étonnantes, parce que effectivement, l'Inde a eu une levée, une autorisation des États-Unis de reprendre ses approvisionnements vis-à-vis de la Russie, et je crois pour une période limitée d'un mois. Donc, c'est très circonstancié. Mais globalement, si vous regardez les deux indicateurs, je dirais très journaliers, qui sont le cours du rouble et l'indice de la bourse de Moscou, eh bien, le cours du rouble s'est plutôt effrité, le rouble a plutôt baissé, que de reprendre des couleurs. Alors, c'est assez étonnant. Et la même chose pour l'indice de la bourse de Moscou, qui est pratiquement stable. Donc, voyez-vous, on aurait pu s'attendre, logiquement, ou dans une certaine forme de logique, à une reprise de l'industrie pétrolière et donc de l'économie russe. Alors, premièrement, cette situation, elle n'est pas faite pour durer. Or, la Russie a besoin, effectivement, d'une visibilité. L'année 2026 va certainement pas être très très bonne. Donc, il y a cette pondération entre le très court terme, qui n'est pas fait pour durer, qui peut être éventuellement un peu positif, mais stratégiquement, la situation économique de la Russie est mauvaise.
Dernière question, Gérard Vespierre, un peu plus générale. Qui dirige aujourd'hui l'Iran? On dit le nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei blessé. On parle d'une armée iranienne transformée en organisation terroriste, selon certaines sources sécuritaires en Israël. On entend aussi beaucoup de figures politiques du régime s'exprimer. Est-ce que vous pensez que les jours de ces figures politiques sont aussi comptés?
Je pense qu'il doit y avoir un certain désordre dans, effectivement, l'exécutif iranien, tant militaire que politique, car effectivement, même la télévision d'État, au cours d'un documentaire il y a ces dernières heures, a présenté Mojtaba comme étant un vétéran blessé de la guerre du Ramadan. Donc voyez-vous, il y a ce brouillard qui explique aussi sa non-présence extérieure pour des raisons aussi de sécurité, pardon. Mais donc vous avez cette situation où la tête, non pas de l'exécutif, mais la tête pensante, eh bien, n'est pas forcément en responsabilité. Donc vous avez ensuite, eh bien, la guerre, j'irais, d'influence entre le président Pezeshkian et puis Larijani, qui est le chef du Conseil de sécurité, qui est bien sûr aux manettes actuellement, étant donné la situation sécuritaire et militaire de l'Iran. Et troisième volet, les gardiens de la révolution qui ont à mener l'opérationnel des combats et des frappes. Donc, à l'intérieur de ce triangle, Pezeshkian, Larijani, gardien de la révolution, il y a certainement des difficultés de communication et des visions du futur peut-être un peu différentes.
Gérard Vespierre, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.